Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bin Jojo, c'était donc toi depuis le début?
Salut, c'est Thomas Rozek. Alors que la vie normale, ou en tout cas la vie sociale, repointe tout doucement le bout de son nez, centimètre par centimètre, on commence déjà à se demander à quelle vitesse on mettra toute cette période de crise derrière nous. Et surtout si au passage, on ne risque pas d'opérer un léger rejet de tout ce qui lui est associé. À la fois le pire, la mort, la peur, la souffrance, mais aussi le meilleur, car il en est sorti des choses positives. Alors, très peu, on est bien d'accord. Mais il y en a eu, des choses importantes qu'il ne faudra pas oblitérer de nos souvenirs. Des créations, par exemple. Alors non, je ne parle pas des journaux de confinement et autres comédies sur la cohabitation forcée entre générations qui déjà pullulent, mais plutôt des propositions singulières, directement née de la crise. Comme par exemple le superbe Inside du comédien américain Bo Burnham, une œuvre hybride où se mélangent l'humour, le sérieux, la musique, le spectacle, le documentaire. C'est la nouvelle preuve de la vivacité et de la richesse de la scène comique américaine. Et même si c'est pas bien de se comparer, bon, sur ce coup-là, la comparaison est rude. Pourtant, en France, les choses changent et certains humoristes ont décidé de faire bouger les lignes pour tenter de combler un peu l'écart. C'est le cas de Shirley Soignon, avec qui nous allons passer l'intégralité de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Outre nos réflexions en cours sur l'état de l'humour en France, on a surtout profité du passage de Shirley dans nos studios, puisqu'elle est venue participer à notre newsletter hebdomadaire La Dose, à laquelle évidemment je vous incite à vous abonner. Ensemble, on a surtout causé de ses nouvelles activités, car depuis un moment maintenant, Shirley Soignon n'est plus uniquement une comédienne et humoriste, mais elle est aussi une productrice et une patronne. La patronne du Barbès Comedy Club, un espace de création et de développement pour les jeunes comiques de stand-up. Et j'ai voulu savoir pour démarrer comment elle avait décidé de sortir de son rôle strict d'artiste.
Je suis arrivée dans ce monde-là vraiment en tant qu'artiste. Hein. J'avais vraiment aucune envie de projet de devenir productrice un jour. C'est la vie qui a voulu ça. Mon expérience, ma personnalité. En fait, quand je suis arrivée dans le monde de l'humour et notamment des médias, j'ai constaté, et d'ailleurs c'est assez rigolo parce que je suis arrivée aujourd'hui chez Binge, je ne sais pas si on peut le dire, mais pour enregistrer, pour répondre à une question du newsletter audio qui s'appelle « Peut-on rire des races ?» Et cette question m'a poursuivi toute ma vie, ouais. Notamment dans mon métier. Venant d'une famille métisse, française, métissée, je me suis très vite dit « Oh, c'est dommage qu'on me catalogue !» Je me sens pas, ce que je veux dire quand je parle de famille métissée, c'est que je me sens pas étrangère du tout à la France. Je suis alsacienne et ivoirienne, je me sens absolument pas étrangère à la France, même si mon physique pourrait croire que je suis totalement étrangère à ce pays. Et en fait, ça m'a très vite perturbée dans ma jeunesse de voir qu'on était catalogués en tant que femme, noire, lesbienne ou ce que tu veux. Manque de peau, je fais les trois. Et j'en passe, hein. Il y en a d'autres qui ont d'autres choses. Et puis c'est là, on est catalogués. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'être dans ce monde, accepter ce monde-là, fitter avec ce monde-là, accepter des invitations à des endroits où en fait je vais être catalogué et où je vais dégager pour les gens qui puissent me ressembler dans la société quelque chose qui est de l'ordre de... Il n'y a pas d'espoir. Il y a de l'espoir. L'espoir, c'est de créer, d'entreprendre, effectivement, et de créer le monde qu'on a envie de voir autour de soi au lieu de se plaindre du monde qu'on a autour de soi. J'ai eu une phase comme ça, hyper dépressive, où je me plaignais vraiment de ce monde-là et où moi-même, je commençais à devenir raciste. Je pense qu'il y a un vrai truc de... Ah, on est tellement fatigué qu'on devient nous-mêmes très cons, tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, au lieu de devenir très con, je vais monter mon entreprise. Et si je suis devenue humoriste à la base, c'est aussi parce que, bon ça c'est plutôt intime, mais mon parcours de vie fait que j'avais besoin de transformer la souffrance en quelque chose de positif. Et quand je suis arrivée dans le milieu de l'humour, j'avais 20 ans, un peu naïve, vraiment en mode, c'est cool, je vais trouver une famille de gens qui font la roue, qui sont heureux tous les jours. Et en fait, je suis tombée sur des dépressifs, comme moi, et je n'ai pas accepté l'information. Donc je me suis dit, ok, il faut que je crée un monde qui me ressemble. Et un monde dans lequel des jeunes humoristes pourront rentrer et se dire, oh il est cool ce monde. Oh, c'est pas un monde de chiens.
Parce que toi, t'es passé par différents des espèces d'écoles de formation quelque part qui sont des rendez-vous autour de l'humour. Il y a eu le Jamel Comedy Club.
Ouais, total.
Il y a eu l'émission de Ruquier On demande qu'à en rire. Il y a eu toutes ces étapes-là.
Samedi Roumanoff avec Anne Roumanoff sur Europe 1 pendant 3 ans. Mais effectivement, Jamel Comedy Club, On demande qu'à rire, c'était des énormes formations. Le fait de monter une boîte, c'est aussi une énorme formation, quoi. Tu vois, de décider aussi de monter un club, c'est une énorme formation. Moi, j'adore me planter, quoi. J'adore ça, mais vraiment, j'adore dire...
Pourquoi t'adores te planter?
Mais parce que ça veut dire que je réussis, quoi. J'apprends des trucs. C'est ce que j'ai écrit dans les loges. J'ai dit, tu sais, si tu réussis pas, au moins t'apprends. J'apprends beaucoup. Mais voilà, c'est trop cool d'avoir une école de la vie, de ne pas se contenter de se dire... Tu sais, souvent, voilà, on fait des études, on finit notre diplôme, on dit, tu sais que maintenant, je suis ingénieur. Et puis c'est fini, quoi. Ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne veut plus évoluer. Donc moi, je passe mon temps à déconstruire, reconstruire, jusqu'à la mort. Parce qu'il n'y a aucun intérêt à dire, je sais tout. Enfin, ou en tout cas, je ne veux plus évoluer dans ma connaissance de moi-même, tu vois. Donc j'adore me planter.
Tu t'es inspiré de ces espaces où toi, t'as pu développer, apprendre des trucs en tant qu'artiste, en tant qu'interprète, pour construire, toi, ton espace à toi. Que ce soit inspiré en négatif ou inspiré
en positif.
Ouais,
totalement, en opposition, souvent. Ouais. Souvent en opposition, mais c'est forcément que c'est inspirant. Forcément que c'est inspirant parce que tu dis « Ah, on pourrait faire ça mieux, on pourrait faire ça, truc, ah ok, cool. » Sans prétention aucune, hein. C'est juste dans continuer de se faire rêver, pas accepter l'utopie des autres, créer la tienne si tu fites pas avec l'utopie des autres, c'est ça en fait surtout, c'est juste ça. Donc ouais, carrément, ça, c'est grave inspirant. Jamel Comedy Club, ça a été une bête opportunité parce que j'ai pu à la fois faire de la scène, partir en tournée, apprendre à présenter des émissions radio, parce que j'étais avec Yacine Dedo, on a fait le Comedy Club Live, c'était chambé pendant un an, ça, c'était trop bien. J'ai présenté une émission de télé, j'ai eu beaucoup beaucoup d'expérience, c'est une énorme école pour moi. On demande qu'à en rire, ça m'a appris énormément à gérer, vraiment à gérer une carrière en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, être exposé devant des millions de gens, à accepter les retours négatifs, à comprendre que tout le monde va pas t'aimer, moi vraiment ça m'a fait grandir. C'est le moment où j'ai arrêté d'être naïve. Parce qu'en fait, jusque-là, j'avais 24, 25 ans quand je le faisais, tu vois. J'étais là, pourquoi les gens ne m'aiment pas? Mais moi, j'aime tout le monde. Et après, vraiment, j'ai mis du temps à comprendre que j'aimais pas tout le monde et que j'étais grave hypocrite depuis tout ce temps. J'étais là, mais non, mais c'est vrai qu'ils ont le droit de pas m'aimer parce que je les aime pas non plus. Tu vois, c'est fou de vouloir être. Enfin, il y a un côté très enfantin, quoi, à dire, mais tout le monde, on s'aime tous. Et là, non, mais en fait, t'as pas réglé des trucs, là. Regarde, est-ce que t'aimes vraiment tout le monde?
Pourquoi t'as choisi la forme d'un comedy club, justement, et pas une émission de télé ou une émission de radio ou une autre façon d'accueillir comme ça des nouveaux talents et de les aider à évoluer?
C'est drôle, parce que j'essaye, hein, je fais des émissions. Je fais plein de trucs, en fait. Non, j'essaie tous les vecteurs, mais le comedy club, en soi, ça me paraît trop logique vu que je fais du stand-up. En gros, c'est comme si tu fais du basket et puis il n'y a pas beaucoup de terrain de basket en France. Bah, tu vas faire un terrain de basket, tu vois. Parce que souvent, on joue sur les terrains de foot. Et on dit, ah, sympa le ballon, mais c'est pas du tout le même. Hein. Puis le panier, tu vois. Donc, il fallait créer un espace dans lequel je pouvais me planter tranquillement. Parce que c'est ça aussi, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, on m'a très vite envoyé en télé parce que j'ai rencontré un prod qui lui a mis de l'argent sur moi. Et du coup, il fallait rembourser cet argent. Et du coup, on avait pris une salle, il fallait remplir la salle, donc faire de la com dessus, tu vois. Avec un système, voilà, qui était uniquement financier et qui n'était plus du tout artistique. Donc, à l'époque, vraiment, j'avais ce manque-là de me dire, putain, c'est dommage de ne pas pouvoir s'entraîner tranquillement et développer sa carrière tranquillement. Parce que quand je fais des blagues à 22 ans, et j'en avais déjà conscience à 22 ans, elles sont nulles, c'est sûr. C'est sûr que dans 10 ans, ça sera mieux. J'espère, tu vois. Donc, pourquoi se dépêcher comme ça de... Moi, je le vois maintenant que j'ai ouvert un comedy club. J'essaie de faire hyper attention aux humoristes parce que maintenant, je mets des vidéos sur Internet 2. Il y a des producteurs qui comprennent pas, encore une fois, que voilà, on n'est pas des objets, quoi. Et là, j'ai entendu une histoire d'un jeune humoriste de mon club à qui on a proposé un contrat de 6 ans alors que la personne n'a que 3 minutes de spectacle. On lui a proposé un contrat de 6 ans et 2 spectacles. La personne, tu vois, elle voit, tu vois, normal, elle y voit plus clair, elle sait plus, attends, c'est la chance de ma vie, c'est comme un énorme producteur. Donc voilà, c'est vraiment pour l'inverse de ça. Donc là, je me dis, bon bah génial, j'avais pas pensé à ça, mais il va falloir que je fasse signer un contrat juste de protection d'agent, tu vois, pour un an à ces gens-là. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Et qu'après, ils le regrettent. Comme je l'ai pu regretter en disant, ah, peut-être que c'est, tu vois, c'est mon destin qui est là, t'es là. Non, vraiment, c'est pas encore là. Et aux États-Unis, bah, il y a quand même plus d'expérience et de pratique du stand-up. Donc, on sait qu'on signe pas du jour au lendemain avec quelqu'un comme ça, quoi. Surtout quand t'as 3 minutes, quoi. Il y a une humilité dans le stand-up américain qu'on n'a encore pas ici qui me terrifie, quoi.
Parce qu'il y a plus d'étapes dans la formation d'un humoriste aussi, peut-être. Il y a le club local, le club après, on tourne au régional, national.
Oui, mais il y a aussi tellement de très bons humoristes. Le niveau est plus fort, quoi. Donc forcément, là, le niveau est pété, c'est pour ça. C'est que les gens connus sont pétés. Et je m'inclus dedans. Vraiment. C'est pour ça qu'on est toujours à dire, oh, Blanche Gardin, Haroun. Parce qu'il y en a deux, frère, sur les 1000. T'es là, bah, il y a un problème dans notre humour. Et il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on est nul, tu vois. Mais c'est pas grave, parce que c'est une étape. Enfin, moi, je viens du sport. Et vraiment, pendant longtemps, j'étais nul. J'avais un potentiel. Mais j'étais pas ouf. Parce qu'il fallait s'entraîner tous les jours, nuit et jour, jusqu'à temps que le public te dise c'est bon ou que tu mettes des points, que ça se voit. C'est pas parce que t'es un super attaché de presse. C'est parce que t'es bon et que c'est tout. Tu vois. Donc ça, c'est un truc, moi, je trouve qu'on n'est pas assez exigeant. D'une manière générale, on n'est pas assez exigeant et on n'est pas assez motivant les uns avec les autres. Et c'est pour ça que, voilà, j'essaie de créer au Barbès de la bienveillance, de ton pote qui est à côté de toi, c'est pas ton ennemi. C'est pas ton ennemi, c'est un autre gars, il a une autre expérience de vie, une autre meuf. Ça ne sera jamais toi, une pont, tu vois. Toute cette histoire, toute cette époque de justement de Gad Elmaleh, des copies comiques où on essayait d'être... On peut pas piquer les vannes de quelqu'un d'autre, etc. Be yourself, quoi. Donc tout ça, j'essaie de nettoyer ça dans l'univers qui m'entoure, dans les gens qui m'entourent et tout. Et de créer au Comedy Club un espace bienveillant, comme au sport. Un gymnase dans lequel tu peux t'entraîner, tu prends ta serviette, tu t'essuies, tu t'en vas. Et j'essaie aussi de faire une chose hyper importante et qui est très dure, je me rends compte. Et c'est en opposition justement à d'autres Comedy Clubs qui existaient avant ça. C'est que, en fait, je suis personne pour ces gens et les gens, ils ont une pression quand je rentre dans la salle. Tu vois, les jeunes humoristes et tout, genre, oh, les gens, les soignants, c'est ça. Et je leur dis, mais les gars, je suis personne, moi. Enfin, je veux dire, je vais rien faire pour ta carrière. Entraîne-toi, plante-toi, tombe, quoi. Amuse-toi, mon pote. C'est la récréation, là. Et moi, vraiment, j'irais toujours te dire, vas-y, plus loin. Vas-y, go, amuse-toi. Tout ça pour dire que le but au Barbès Comedy Club et dans ma vie, c'est que les gens soient heureux. Tout simplement. En commençant par moi.
C'est une ambition très, très
bonne. C'est peu gagneux.
Comment ça fonctionne concrètement quand il y a un jeune ou une jeune humoriste qui veut... démarrer dans un endroit comme le Barbès Comedy Club. C'est quoi les étapes ? Ça se passe comment pour arriver jusqu'à la scène chez toi ?
C'est hyper simple. C'est pour ça que les gens, ils deviennent ouf. Ils sont là, je comprends pas, comment ça se passe ? T'es là, bah tu t'inscris. Il y a un formulaire. T'as pas de mail de confirmation parce que, à partir du moment où tu t'inscris, c'est validé. C'est un micro ouvert. C'est pas un faux micro ouvert comme on a
comme
pu en voir dans
salle.
Ouais. Non, c'est un vrai micro ouvert. Et du coup, des fois, on se retrouve avec des magiciens et t'es là, ah non, j'adore la magie, mais ce n'est pas l'endroit. Mais voilà, c'est ouvert de ouf. Et puis, on laisse des places sur place, parce qu'il y a toujours aussi des gens qui ne savent pas, et tu vois, qui arrivent pour la première fois, le gars qui arrive de Marseille, qui est perdu. Donc, sur place, il y a toujours moyen de gratter une place. L'idée, c'est qu'il y a 16 personnes par séance, donc ils ont tous 3 minutes. 3 minutes, pourquoi ? Parce que c'est énorme quand tu commences, en fait. Les gens ne se rendent pas compte, ils sont là, mais c'est rien, 3 minutes, t'es là, bah vas-y, fais-moi rire en 3 minutes.
Très, très long.
Ouais, des fois, c'est hyper long. Des fois, je demande mon régisseur, ça fait combien de temps qu'il est là ? Il faut une minute, je fais damn ! On dirait que ça fait 10. Ça, c'est drôle, ce rapport au temps, quoi. Donc, c'est hyper simple de rentrer au Barbès et de parler avec nous et de prendre des conseils et tout, parce que c'est ça, c'est cool. C'est du sport, quoi, tu vois. Cool. Donc il y a plusieurs séances, il y en a beaucoup pour qu'on essaie de faire entrer le maximum de gens. Donc par semaine, il y a à peu près 200 humoristes qui passent en micro ouvert, tu vois. Et donc dans ces humoristes en micro ouvert, t'as des confirmés et des pas confirmés. Et il n'est pas question que je programme les confirmés. C'est-à-dire que des fois, ils m'appellent, ouais, il y a moyen de... Je fais, bah tu t'inscris mon pote, comme tout le monde. Parce que vraiment, tu vois, il n'y a pas de privilège. Le privilège, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y a juste le travail. Il y a juste, en fait, tout le monde. En fait, pour moi, mon rêve au Barbès Comedy Club, c'est que tout le monde dise, oui, c'est sûr que lui, il doit monter d'un cran. On est tous d'accord pour dire que lui doit monter d'un cran. On lui donne la force et on te rejoint tout à l'heure. Pour moi, ça devrait être ça, quoi. Donc, en fait, on a ce premier truc de micro ouvert où tu t'entraînes. Après, il y a un micro ouvert où t'es filmé.
Ouais.
Si tu le veux, en fait, tu t'inscris à ce micro ouvert particulièrement où t'es filmé. Le but, c'est soit d'être repéré par la prod, par moi, pour soit te faire des premières parties des plateaux payants, soit parce que tu veux être diffusé sur la chaîne YouTube.
Ouais.
Et du coup, on laisse les gens vraiment être maîtres de leur carrière en disant c'est à toi de me dire si t'es prêt. Et puis, du coup, en général, les mecs ils bossent à fond, hein, 3 minutes, tu vois, qu'ils soient vraiment tight. Et du coup, c'est là qu'on se rend compte de ce que ça veut dire tight pour toi ou pour moi. Il y a l'exigence, la montée toujours un peu plus et tout. Et donc, ça marche plutôt bien. On sélectionne des gens pour faire des plateaux payants. Il y a des copains qui étaient en micro ouvert et qui sont vite montés. Et c'est rare, hein, c'est exceptionnel même. De monter vite, mais voilà, qui font des plateaux en première partie maintenant, et qui font MC, et qui sont un peu plus résidents. Une fois que t'as monté toutes ces étapes de première partie et tout, après tu passes au cachet. parce qu'il faut savoir que les micros verts sont pas payés, ni au chapeau, ni à rien. Parce que j'estime que quand tu t'entraînes, t'as pas à être payé pour t'entraîner, quoi. Et donc le public vient, il passe une bonne soirée, il a juste un verre à prendre et tout. Et puis ensuite, t'as le plateau donc au cachet, et là, ça veut dire, ok, ça y est, je commence à être professionnel, en tout cas semi-pro. Et en termes de sécurité aussi, ça te commence à te mettre dans un autre délire. Tu dis, ok, cool, je suis payé au cachet, je peux peut-être devenir intermittent. Mmh. Et commencer à développer tranquillement ma carrière sans me dire, il faut absolument que j'ai un producteur de demain. Pour qu'il m'aide. Faut absolument que je trouve mon Mac, tu vois. Non, non, tranquille. Donc voilà, là, c'est cool. On voit le truc se faire. J'ai pris, je prends 10 résidents tous les 4 mois. Ouais. Et après, on les fait tourner. Soit il y en a qui restent parce que c'est cool, ça se passe bien, machin. Soit il y en a qui partent en tournée, machin. Donc on fait toujours un pool de résidents différents. Pour qu'il y en ait 10, 11 qui soient garantis de jouer pendant 4 mois. Et ils peuvent, pendant 4 mois, se projeter dans leur développement d'écriture sans se stresser en disant « C'est cool, tous les mois, je sais que le Barbès me donne 700 de cachet par mois. » Tu vois. Mmh. Ça, c'est cool. Après, j'irai chercher le reste ailleurs. Mais en tout cas, j'ai une assise. Parce qu'il faut savoir que quand on commence, en plus, moi, quand ça faisait 2-3 ans, bah, j'étais toujours payé au chapeau. J'avais des cachets, évidemment, de quelques petits trucs, de machin, ouais. Ouais, c'est ça. Puis j'avais la chance de faire le Jamel Comedy Club aussi. Mais pour la plupart, c'est pas ça, quoi. La plupart, c'est du chapeau. C'est t'arrives pas à trouver un logement parce que t'as pas de papier. Tu vois, t'as pas de salaire et tout. T'es pas protégé. Voilà. Donc, essayer de se protéger aussi, quoi. Et du coup, c'est ça qu'on essaye de faire tous les jours, ouais. C'est pas facile, hein. Mmh. Parce que des fois, t'as envie de dire, t'sais, les humoristes, t'as l'impression d'être surveillante de collège, moi. Pose des questions, mais comment j'inscris? T'es là, mais c'est marqué sur le poste. Et du coup, je craque des fois parce que oui, c'est moi qui réponds à vos questions sur Instagram. Non, je n'ai pas trouvé de CM.
Du coup, en plus du club, t'as une activité maintenant de productrice.
Ouais.
Comment ça fonctionne?
Mal. Non, je rigole. Non, non, mais en gros, bah, c'est ça. C'est, on produit déjà les artistes qui viennent jouer au Barbès parce qu'on leur fait des cachets tous les mois et tout. Ensuite, je produis des. Bah, je tente beaucoup, beaucoup de choses en médias, audiovisuels, pour la chaîne du Barbès, pour moi, pour. Voilà. Pour kiffer. Donc, ça, c'est de la production, mais vraiment, ce que. Je sais pas si on peut appeler de la production ou de la folie, quoi. J'ai de l'argent, je le dépense, après je fais pas la pub. Voilà, c'est tout ce qui se passe. On a commencé à produire au tout début, et quand je dis on, je parle de moi, les gens qui me connaissent savent, c'est vraiment, je suis toute seule, c'est moins triste de dire on.
Oui, c'est genre on a une,
genre on a une grosse équipe. Team derrière, ouais. Et pas du tout. Et du coup, non, c'est ça, j'ai essayé de produire des artistes au début, mais en fait, quand t'es artiste toi-même, c'est compliqué de produire d'autres gens. On peut pas être deux fous dans la même boîte. Et du coup, j'ai trouvé ma façon de produire en ayant un comedy club, quoi. C'est-à-dire que je l'ai produit, ouais. Mais de façon éphémère, tu vois.
Ouais.
Et je veux certainement
un peu détourné,
pas.
Du coup.
Et ouais, c'est ça. C'est plutôt du développement qui fait plaisir, quoi.
T'espères, toi, voir apparaître d'autres espaces comme ça, d'autres lieux comme ça, un
totalement.
Peu partout ailleurs ouais.
Écoute, de toute façon, j'arrête pas d'en parler, donc continuons de le faire, parce que j'ai l'impression que souvent, je parle pas de mes projets pour qu'ils existent, mais celui-là, je sens que c'est parce que je vais en parler beaucoup qu'il va exister. Je vais faire une franchise du Barbès Comedy Club dans les villes de France. Hier encore, dans la nuit, j'étais en train de chercher à Nantes où acheter quelque chose, parce que c'est une des deuxièmes villes pour le stand-up. Genre, il y a énormément de stand-upers en Nantes qui sont très bons. Et du coup, ouais, j'ai très envie d'ouvrir un club à Nantes. Alors, j'ai envie de le franchiser. Ouais. Donc, s'il y a des gens qui m'entendent et qui ont envie d'ouvrir un club, bah, prenez le Barbès Comedy Club. On a quitté en moi. Mais j'ai envie aussi de bouger. Je réfléchis aussi à moi, à bouger quelque part, ouais. Dans une autre ville et puis monter ailleurs un truc, quoi. Très envie de monter une école. Mais pas forcément d'humour, précisément. Tu vois, une école artistique, quoi. Mm. Qui comprenne les auteurs dedans, mais pas forcément que.
Et quel espace tu laisses pour. Ta propre
pour
carrière
ma vie.
D'artiste. Alors, pas ta vie perso, ça te regarde, mais pour ta
non,
carrière
ça, ouais.
D'artiste à toi.
C'est ce que je dis souvent, je prends le risque de la sacrifier, entre guillemets, hein, parce que vraiment tout le monde s'en bat les couilles, c'est pas que genre, je suis pas Johnny Hallyday, genre je sacrifie ma carrière pour... tu vois, non, c'est très intime ce que je raconte là, mais de passer à côté de ça, parce que c'est beaucoup d'ego en fait, d'être sur scène. Énormément de besoin d'amour, tu vois, insatiable comme ça... Mm. Il y a une vraie dissonance cognitive dans ce que je fais, quoi. Parce que je passe mon temps à essayer de dire aux gens qui me reconnaissent et tout que je peux comprendre qu'on admire le travail de quelqu'un, mais qu'on admire la personne. Tu vois, ce truc-là, là. En fait, on joue, je sais pas comment dire, on joue un jeu dangereux, quoi. Mmh. Tu vois, on joue vraiment un jeu dangereux à faire croire aux gens qu'on est merveilleux, que c'est là-haut que ça se passe, que nous, on s'en est sortis. C'est Hunger Game, la life. Et on est en train de dire aux gens, ouais, continuez de jouer à Hunger Game. Ouais, c'est bien de... Tu vois, on le fait tout ce discours de « Ouais, c'est vrai que j'étais malheureux ouais, et que j'en suis sorti. » Et donc les gens, ils te regardent à la télé comme ça. « Moi aussi, j'aimerais tellement m'en sortir. » tu vois. Et donc, c'est tellement perturbant pour moi, ce taf. Tout le temps, quoi. C'est cyclique. Donc, des fois, je suis là. Ouais, c'est super, c'est génial. Et d'autres côtés, je suis là. Mais non, je sais pas. Donc, j'essaye d'être le moins connu possible pour les mauvaises raisons. Tu vois, c'est pas évident. Voilà.
Mais c'est paradoxal parce que t'as besoin d'être connu aussi pour justement pouvoir mener tes activités, ouais, de barbès,
c'est tout ça. C'est ça qui est hyper paradoxal, t'as, ouais, raison. Parce que, genre, moi, quand moi, dans ma carrière, j'avais décidé d'arrêter de faire des télés et tout, quand le barbès a ouvert, il y a vraiment une personne qui était là. Oui, bon, là, c'est la productrice qui va aller faire une promo. Donc, c'est la prod qui parlait à l'artiste. et en fait, c'était con parce que ça n'a. Je devrais rester sur ma ligne de conduite que j'ai en tant qu'artiste parce que le plus important pour moi, c'est de. Mais à chaque fois que je dis ça, les gens sont en mode. Ah, ça, c'est dur quand même ce que tu dis, mais c'est vrai, c'est genre. Le plus important pour moi à chaque instant, c'est mon cheminement vers la mort qui soit le plus léger possible. C'est juste ça, quoi. Et là, je m'alourdis de fou mon karma à chaque fois.
C'est riant un peu en attendant la mort.
Mais c'est tout ce qui m'intéresse. Donc la notoriété là-dedans. Pff. Après, je continue de faire mes blagues. J'ai quand même la chance d'avoir un comedy club dans lequel je peux jouer quand je veux. Ça se passe plutôt bien quand je le fais. Des fois, je bide, ça fait mal. Quand c'est ton club, t'as envie de fermer et dire « Bon, allez, hop, fin du business plan, les gars. Ça vous met saoulé. » Mais non, c'est un vrai bonheur d'avoir ce lieu, vraiment. Ma carrière là-dedans, elle est heureuse, en fait. Elle est épanouie à partir du moment où j'écoute ce que j'ai envie de faire et où j'écoute pas ce qu'il faudrait faire.
Et je l'ai dit au début, mais je le redis, Shirley Soignon, elle a tout récemment participé à La Dose, notre newsletter hebdomadaire à laquelle vous devriez, sans vous commander, vous abonner. Ça se passe sur le site ladosetoutattaché.binge.audio. Merci à Shirley Soignon pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter, Instagram pour nous parler. Et à demain pour un nouvel épisode.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.